France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Faut-il la répéter, cette phrase, une fois de plus, tant elle sonne, à la fois dans la vie politique de notre pays, mais aussi dans son histoire et son histoire judiciaire. Pour la première fois dans l'histoire de la République, un ex-président va aller en prison. Nicolas Sarkozy a donc été condamné à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, mandat de dépôt différé, assorti d'une exécution provisoire. Ça veut dire que même s'il fait appel, et il le fera, il l'a dit, il n'échappera pas à la case prison. Derrière cette bombe, il y a 1000 questions. Les conclusions des juges, elles ne tiennent pas sur un bandeau de télévision, elles font 400 pages. Ce jugement, il est complexe. Ce que nous allons essayer de faire ensemble ce soir, c'est le détailler pour le comprendre. Nicolas Sarkozy dit « c'est une injustice, je n'ai pas été condamné pour corruption, comment puis-je l'être pour association de malfaiteurs ?» Nous répondrons à ça en expliquant ce que c'est une association de malfaiteurs, première utilisation d'ailleurs dans un dossier financier de cette importance. Pourquoi un mandat de dépôt, on n'imagine pas l'ancien président se carapater à l'autre bout du monde ? Pourquoi l'exécution provisoire ? Peut-être sera-t-il utile aussi de nous souvenir de ce que c'est le PNF, le parquet national financier, qui a été créé dans la foulée de l'affaire Cahuzac. Il est devenu l'ennemi numéro un de la délinquance en col blanc. Et il parle peut-être aussi d'une ère qui est bien terminée, celle de l'impunité des politiques qui désormais peuvent se prendre la justice de plein fouet comme n'importe qui d'autre. Bien sûr que la politique n'est jamais bien loin. Pour l'instant, amis ou adversaires politiques sont plus ou moins discrets, mais on commence à voir monter évidemment quelques réactions et nous y viendrons. Nous discuterons ensemble de ce que cette condamnation implique aussi dans la vie politique française. Allez, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Éric, vous êtes le premier et vous êtes le bienvenu. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Merci de prendre mon appel. Voilà, je voulais dire simplement que pour l'opinion publique, quand on écoute les médias, on ne comprend pas très bien, puisqu'on dit clairement qu'il n'y a pas eu corruption, qu'il n'y a pas eu détournement d'argent. Et malgré tout, il est condamné à 5 ans. Donc on s'explique pas trop pourquoi il est condamné à 5 ans, quoi. Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans les médias là de droite essentiellement, on entend tout ce déchaînement. Et je voulais savoir dans quelle mesure c'est les juges qui décidaient de la peine. Est-ce qu'ils ont une latitude? Est-ce qu'il y a un minimum, un maximum prévu par les textes? Et sur quoi on s'appuie pour définir ces 3 ans, 5 ans ou 10 ans, quoi?
Eh ben Éric, merci beaucoup, c'est un joli démarrage, une vraie question juridique pour nos invités et pour ceux qui nous écoutent aussi pour répondre à toutes ces questions jusqu'à 20h. Il y a Jean-Philippe Derosier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes constitutionnaliste, monsieur Derosier, vous êtes professeur de droit public à l'Université de Lille. Autour de moi, il y a bien sûr Charlotte Piret. Bonsoir Charlotte.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au service police-justice de France Inter et Maxence Lambrec aussi. Bonsoir Maxence.
Bonsoir.
Chef du service politique de France Inter. Est-ce que c'est vers vous que je me tourne tout de suite, Jean-Philippe Derosier ? D'abord, parce qu'on va, rentrer un peu plus dans le détail sur corruption ou pas corruption la justification de la peine, mais est-ce qu'on est là, est-ce qu'on est dans un classique, enfin, je veux dire, prévu par le code, pour association de malfaiteurs, c'est de temps à temps, et donc on est où quand on a 5 ans? Est-ce que ça pourrait être beaucoup plus haut? Où est-ce qu'on est en fait avec ces 5 ans?
Alors, il y a plusieurs éléments. Nicolas Sarkozy était poursuivi pour plusieurs infractions, et les juges ont considéré que les faits ne justifiaient pas une condamnation pour 3 des 4 infractions pour lesquelles il était poursuivi. Seule l'infraction d'association de malfaiteurs a retenu une qualification pénale et justifie ensuite qu'il y ait une condamnation. En droit pénal, il y a un principe qui s'applique, qui est un principe constitutionnel, qui est le principe de personnalisation des peines. Mmh. Le code pénal prévoit toujours un quantum de peine et assorti donc une peine d'une durée d'emprisonnement. Mais le juge reste libre d'apprécier la durée de cet emprisonnement par rapport à la personnalisation de la personne qui a commis cette infraction. Et par conséquent, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une même infraction, on n'a pas toujours la même condamnation, parce que ça dépend dépend de qui il s'agit, ça dépend dans quelles circonstances est-ce que l'infraction a été commise, ça dépend si c'est la première fois ou si c'est une récidive, etc., etc. Et donc là, le juge a retenu que pour Nicolas Sarkozy, dans les circonstances de l'espèce, au regard de tous les éléments et les arguments qu'il a avancés, eh bien, ça justifiait cette peine-là.
Il y avait une autre question dans la question d'Éric, si je puis dire, Charlotte Piré, je reviendrai vers vous, bien sûr, Jean-Philippe Derosier. Et si je la résume rapidement, c'est comment ça, coupable mais pas corrompu. Comment c'est possible
en Oui, fait c'est ce qui est le plus difficile à saisir hein, ce soir, effectivement. Et c'est d'ailleurs sur cette faille que surfent, si on peut dire, tous les détracteurs de cette décision de justice qui a été rendue aujourd'hui. En fait, comme le rappelait notre invité, Nicolas Sarkozy comparaissait pour plusieurs infractions. Si on veut se concentrer sur les deux principales, ou les trois principales, disons, il y avait l'association de malfaiteurs, la corruption et le financement illégal de campagne. Pas d'argent n'a été clairement retrouvé dans la campagne. C'est pour ça que cette infraction a été écartée. Sur la corruption, c'est un peu plus difficile à comprendre. C'est-à-dire que ce que conclut le tribunal aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a bien eu un pacte corruptif. Ce sont les mots de la présidente quand elle a lu le délibéré. Il y a bien eu ce pacte entre Nicolas Sarkozy et le régime libyen pour recevoir de l'argent en échange de contrepartie que le tribunal a reconnu comme ayant ces propositions ayant existé, contrepartie diplomatique, économique et judiciaire. Mais ce pacte corruptif, lorsqu'il est conclu, Nicolas Sarkozy n'est pas encore président, il ne représente pas l'autorité, il n'est pas dépositaire, pardon, je cherche mes mots ce soir.
C'est pas grave.
Dépositaire de l'autorité publique, un petit peu, et du fait de ce statut-là, il n'entre pas dans l'élément de corruption, donc il ne peut pas être condamné pour ça. En fait, c'est du droit, c'est un petit peu la différence entre le bon sens commun et le droit, et ici, le tribunal a fait du droit en ce qui concerne la corruption.
Oui. Il y a une chose sur laquelle je voudrais qu'on revienne pour que les gens comprennent bien, parce que je vous entends parler de pacte corruptif, d'association de malfaiteurs. Est-ce que ça veut dire que pour qu'il y ait association de malfaiteurs, il suffit que Maxence et moi, par exemple, on se réunisse pour décider de prendre de l'argent à je ne sais qui. Le simple fait de l'avoir fait, de l'avoir prévu et qu'on ait la preuve que nous avions cette intention, ça suffit à dire association de malfaiteurs? Est-ce que je comprends bien les choses?
Tout à fait. Ça, c'est l'autre infraction, donc l'association de malfaiteurs, qui est une grosse infraction pour laquelle on encourt 10 ans de prison lorsqu'elle est délictuelle. Elle peut même être criminelle dans certains cas, ce n'est pas le cas ici. En fait, l'association de malfaiteurs, c'est ce qu'on appelle une infraction obstacle. Et la présidente a tenu à la rappeler. Elle a tenu d'ailleurs à expliquer cette infraction au moment de se délibérer. Et oui, vous l'avez dit, il suffit de mettre en place les conditions du délit pour pouvoir être condamné pour cette infraction.
Même si on ne prouve pas le délit derrière.
Même si on ne prouve pas le délit derrière. En l'occurrence, il faut une intention, vous l'avez dit, et quand même des éléments matériels. Et ces éléments matériels-là, c'est Claude Guéant et Brice Hortefeux qui vont rencontrer le régime libyen.
Après, ce qui est intéressant, Jean-Philippe Derosier, c'est que l'association de malfaiteurs n'avait jamais été utilisée dans une affaire de ce type. Nous, et les gens qui nous écoutent, savent très bien, association de malfaiteurs dans les affaires de terrorisme, on a l'habitude, on sait exactement ce que ça veut dire, et on comprend. Association de malfaiteurs dans une affaire financière, là pour le coup c'est une première. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a été utilisé, Jean-Philippe Derosier, et pourquoi ça a été utile, ou est-ce que ça vous interroge ?
Alors, ça ne m'interroge pas parce que, dans le cas d'espèce, il y a effectivement une association de plusieurs personnes, comme cela a été très justement rappelé, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux, en vue d'obtenir un enrichissement. Et quand bien même cet enrichissement ou ce détournement n'a pas été obtenu, l'association avait quand même une intention, on va qualifier cela d'intention dolosive, c'est-à-dire une intention qui était contraire à ce que le droit permettait. Et c'est cette intention-là, cet objectif-là, cette association en vue de cet objectif qui est condamnée par le juge pénal.
Mais alors, et on va revenir sur le mandat de dépôt dans un instant, sur l'exécution provisoire. À partir du moment, Jean-Philippe Derosier, où on n'arrive pas à prouver la corruption ni le financement illégal, et qu'on est donc sur l'association de malfaiteurs, est-ce que, sans la corruption, en gros, pardon de le dire de manière un peu trop béotienne, ça vaut 5 ans?
Ça, c'est le juge qui l'apprécie je n'ai pas
à commenter une décision de justice.
Il il fait 400 pages, donc je n'en ai pas encore eu connaissance. Mais le juge, visiblement, avec 400 pages de motivation, j'ai confiance en la justice, j'ai confiance dans la composition du tribunal correctionnel qui a minutieusement examiné les faits, tient compte évidemment de la personnalité. Nicolas Sarkozy n'est pas un justiciable comme les autres. C'est faux de dire que c'est un justiciable comme les autres. Il bénéficie du même droit que tout le monde, mais tout le monde n'est pas un ancien président de la République. La preuve, c'est que ce soir, on consacre une émission spéciale à Nicolas Sarkozy. À chaque fois qu'il y a un jugement du tribunal correctionnel qui est rendu, il n'y a pas une émission spéciale, du téléphone sonne, sinon on ne s'en sortirait plus. Donc, sa personnalité justifie non pas une peine particulière, mais la situation dans laquelle il l'a faite, l'exemple qu'il constitue pour un certain nombre de personnes, parce qu'il est une référence, M. Sarkozy, que ce soit dans un sens ou dans un autre, eh bien, justifie aussi une certaine réaction de la justice. Et donc, je ne suis pas capable de vous dire mathématiquement, quand on fait ça, plus ça, égale 5 ans, mais les juges apprécient et justifient le quantum de cette peine. Et M. Sarkozy a la possibilité d'interjeter appel pour que sa cause soit réexaminée une deuxième fois et que, le cas échéant, d'autres juges examinent et confirment, infirment, nuancent la condamnation dont il a fait l'objet en première instance.
Jean-Philippe de Rosier, vous l'avez dit, pas un justiciable comme les autres, et en même temps, oui, évidemment, ensuite condamné ou pas, comme n'importe qui d'autre, et c'est le sens de la question de Floriane. Bonsoir Floriane.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Je me posais en fait une question toute simple. Si j'étais moi à la place de M. Sarkozy, donc condamné pour association de malfaiteurs et que je décidais de faire appel, est-ce que je serais incarcérée en attente de mon procès et comme une citoyenne lambda? J'ai l'impression en fait qu'on s'émeut pour une situation finalement qui est normale.
Merci beaucoup pour votre question, Floriane. Vous avez ce chiffre, Charlotte Piret, ou pas ?
Du nombre de personnes incarcérées.
Ouais, du pourcentage.
Non, c'est difficile à dire, mais c'est probable, en fait, parce que c'est une infraction grave avec une peine qui n'est pas aménageable immédiatement, comme peut l'être la peine dont a écopé Brice Hortefeux aujourd'hui, qui est de 2 ans d'emprisonnement et qu'il va effectuer sous bracelet électronique. Dès lors qu'on dépasse cette barrière pour des faits à l'époque, parce qu'aujourd'hui, la barrière, du fait d'une décision de Nicolas Sarkozy, est passée à 1 an, on risque une incarcération. Donc la logique est celle de l'incarcération. Après, oui, comme le rappelait notre invité, on tient compte évidemment de la personnalité aussi et pas seulement de la gravité des faits. Et ce qui a été décidé par le tribunal, c'est effectivement ce mandat de dépôt différé, rappelons-le, c'est aussi pour permettre à Nicolas Sarkozy de s'organiser. Mm-hmm. Il n'est pas parti en détention immédiatement, comme l'ont été 2 condamnés aujourd'hui.
Moi, j'ai lu un chiffre, Jean-Philippe de Rosier, mais vous pourrez me contredire, j'ai lu un chiffre en préparant cette émission qui disait que s'agissant du nombre de justiciables qui restent en prison et qui vont en prison entre deux jugements, donc entre la première instance et l'appel, moi j'ai lu un chiffre incroyable de 86%.
Je ne peux ni confirmer, ni infirmer, ni nuancer. Je n'ai pas connaissance.
Okay. En fait, il y a aussi des chiffres qui viennent gonfler un peu artificiellement, enfin des situations qui viennent gonfler un peu artificiellement ces chiffres, qui sont les comparutions immédiates, notamment, où l'incarcération est quasi automatique. Donc, il faut voir aussi dans quelle situation on se place. Un prévenu qui comparaît libre et qui est condamné,
le sens de la question de Floriane, c'était est-ce que oui ou non, il est traité comme n'importe quel autre justiciable. Là, en l'espèce, à la fois sur la peine, mais aussi les conditions de la peine, puisqu'il y a mandat de dépôt, même s'il est différé, etc. Est-ce que là, pour le coup, elle serait voisine de cellule de Nicolas Sarkozy, Floriane, au fond ?
C'est tout à fait possible. Alors, elle ne serait peut-être pas voisine de cellule, parce qu'il va quand même bénéficier de conditions d'incarcération propres à son statut. Mais par contre, il est tout à fait plausible qu'elle parte également en détention, même si... Encore une fois, il y a beaucoup de facteurs qui conduisent à une telle décision.
On y viendra aux conditions de détention dans un instant, Charlotte Piret, puisqu'on est là-dessus, Jean-Philippe de Rosier. Avant de prendre le prochain auditeur, je voudrais qu'on éclaire simplement encore une fois les gens qui nous écoutent et qui s'étonnent du mandat de dépôt et aussi, surtout, de l'exécution provisoire. Si là aussi, au fond, on s'en étonne parce qu'on est aussi en train de faire de la politique derrière, on y viendra avec Maxence Lambrecht dans un tout petit instant, ou est-ce qu'on est dans du... finalement assez classique.
Au regard des circonstances de l'espèce, oui, parce que l'exécution provisoire a pour principal objectif de préserver la société de la personne qui a commis l'infraction au regard de cette infraction. Il y a un élément assez déterminant en l'espèce, c'est que Nicolas Sarkozy clame son innocence, ce dont il a parfaitement le droit. Hein, ce n'est absolument pas remis en cause et il bénéficie de la présomption d'innocence. Mais eu égard au fait que, premièrement, il ne reconnaît absolument pas la pénalisation des faits, que, d'autre part, il y a au moins 3 juges qui sont convaincus de sa culpabilité, puisque le tribunal correctionnel est une composition collégiale de 3 juges, eh bien, ils ont retenu que cet inculpé, Nicolas Sarkozy, qui avait effectivement commis des faits pénalement répréhensible selon eux, continuait à se promener dans la rue en clamant son innocence et que cela pouvait nuire à l'ordre public, d'autant plus que Nicolas Sarkozy n'est pas n'importe qui, qu'il a accès à un certain nombre de médias et que, par conséquent, il peut diffuser une parole en interpellant le tribunal de l'opinion, comme d'ailleurs il ne s'est pas privé de le faire pas plus tard qu'en sortant du tribunal.
D'où le mandat
de dépôt. Donc tout cela justifie, effectivement, voilà, tout cela
à la fois le mandat de dépôt et donc son exécution provisoire, en fait, si je vous comprends bien. De ce que dit le tribunal, je vais ouvrir le guillemet, je parle sous votre contrôle, Charlotte, parce que vous y étiez, l'exécution provisoire, son but est de garantir l'efficacité de la peine au regard de l'importance du trouble à l'ordre public. C'est ce que dit le tribunal, mot pour mot.
Mais aussi au moment du prononcé précisément de la peine cet après-midi, pour rebondir exactement sur ce que vous disiez, Monsieur de Rosier, la présidente a rappelé que lors de l'audience, ici, Nicolas Sarkozy avait par exemple relativisé ses précédentes condamnations. Elle lui a fait ce reproche-là, on va un peu dans ce sens. Et par ailleurs, elle lui a rappelé que les faits pour lesquels il était condamné étaient d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens dans ceux qui les représentent. C'est aussi cette idée-là qui a aussi conduit à cette décision de mandat de dépôt et d'exécution provisoire.
Et c'est aussi ça, Maxence Lambrecq, je vous ai un peu laissé tomber là pendant de grosses minutes, Maxence.
J'ai pas fait d'association en parallèle.
C'est vrai, on vous surveille. Ah, quand même.
Cette exécution provisoire, c'est ça qui va faire le socle politique, on va dire, de cette affaire-là, puisque c'est aussi là-dessus que Marine Le Pen se battait. Donc c'est là-dessus que les politiques vont se battre sur l'exécution provisoire.
Et la réaction la plus surprenante aujourd'hui, c'est celle de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui est un républicain modéré et deuxième personnage de l'État, qu'on n'attendait pas à rentrer dans le débat en disant...
questionnement grandissant sur l'exécution provisoire.
Exactement. Je partage ce questionnement grandissant sur l'exécution provisoire, le fait que l'appel ne soit pas suspensif et que Nicolas Sarkozy, comme Marine Le Pen, en ont fait les frais. Que Gérard Larcher aille sur ce terrain-là, ça faisait dire à un membre du gouvernement que j'avais tout à l'heure au téléphone que c'est encore, ça traduit un malaise, ça traduit une justice de plus en plus fragilisée, affaiblie dans le discours, et qu'au fond, tout ça ne mène à rien de bon, et que l'institution judiciaire est aussi encore un peu plus fragilisée, encore un peu plus attaquée. Elle l'était évidemment au soir de la condamnation de Marine Le Pen, elle l'est encore ce soir par des personnages qui ne nous ont pas habitués à ça. Le parti LR, lui, n'a pas été sur ce terrain. Le communiqué officiel, en tout cas, de Bruno Retailleau, président des LR, dit surtout son amitié et son soutien à Nicolas Sarkozy.
C'est ce que dit Laurent Wauquiez aussi.
Oui, Laurent Wauquiez n'a pas voulu aller non
Nicolas
plus sur ce
Sarkozy
terrain.
Nicolas Sarkozy a toujours voulu servir la France avec passion et engagement. Je veux redire mon soutien, ma reconnaissance envers l'homme d'État qui a donné tant à notre pays. Ça ne fait pas allusion, effectivement, à quoi que ce soit de purement judiciaire. Vous arrivez pile au bon moment, Judith Allenbach, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature, et c'est vrai que vous savez déjà, les magistrats, que vous allez devoir faire le dos rond pendant un moment. Vous serez les cibles de débats, vous serez au centre des débats droite-gauche, qu'on le veuille ou non. Jusqu'à quel moment, pour reprendre ce que vient de dire Maxence Lambrecq, jusqu'à quel moment êtes-vous inquiète de la manière dont l'institution peut être bousculée par ce débat aujourd'hui ?
Écoutez, on est très inquiet parce que il est extrêmement grave de constater dans les réactions de certaines parties de la classe politique que certains laissent entendre que les juges ne jugeraient pas en appliquant la loi, mais en fonction d'arrière-pensée politique ou pire d'affect personnel. On a pu entendre qu'il s'agissait d'une décision haineuse, d'un acharnement, qu'il y avait une volonté d'humiliation chez les magistrats. Or, il n'y a pas de cas Nicolas Sarkozy dans la magistrature et il n'y a pas de volonté de nuire. Les magistrats ne se demandent pas ce qu'ils vont lui faire toute la journée. La justice ne reconnaît tout simplement aucun privilège. Et comme le commande le principe d'égalité devant la loi, ils essayent de traiter les procédures de la même façon, quelle que soit la personne qu'il y a devant eux.
Et Judith Alba, pardon, excusez-moi, quand vous entendez qu'il y a une généralisation de l'exécution provisoire, et c'est vrai que j'ai l'impression que ce débat-là, on ne l'avait pas jusqu'à présent, qu'est-ce que vous pensez de cette remarque-là, la généralisation de l'exécution provisoire? Est-ce que c'est simplement qu'on n'y faisait pas attention avant, et puis surtout qu'il n'y avait pas d'énormes poissons comme Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen qui étaient dans ces cas-là?
Écoutez, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre sur quoi certains ou certaines s'appuient pour parler d'une généralisation de l'exécution provisoire. L'exécution provisoire, ça fait très longtemps qu'elle est prononcée très fréquemment dans toutes les juridictions de France et de Navarre en matière pénale, au quotidien, que des mandats de dépôt sont décernés à l'encontre de toutes sortes de personnes condamnées pour des atteintes aux biens, pour des atteintes aux personnes, qu'il y ait un débat politique et entre les parlementaires, un débat législatif sur la raison d'être de l'exécution provisoire, il n'y a absolument aucune difficulté là-dessus. Le problème, c'est effectivement de la critiquer uniquement dans certains cas. Mm-hmm. Si c'est injuste, l'exécution provisoire est injuste pour tout le monde. Il y a quand même un principe d'égalité devant la loi. Donc, en effet, il n'y a pas de généralisation, mais il n'empêche que ça peut tout à fait être un débat législatif légitime.
Ce qu'on dit beaucoup dans les débats aujourd'hui, par exemple, c'est ce que nous évoquions tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà là, sur l'association de malfaiteurs qui apparaît dans une affaire financière, alors que jusqu'à présent, ça n'avait pas été le cas. Est-ce que c'est le début de quelque chose, en fait, d'une certaine façon? Est-ce qu'il a inauguré l'association de malfaiteurs dans une affaire financière, Nicolas Sarkozy?
Ah, écoutez, je ne pense pas. Enfin, c'est compliqué de l'affirmer parce que c'est un degré de généralité qui est un peu important. En revanche, ce que je trouve assez intéressant, c'est que la question de l'association de malfaiteurs en matière financière est très peu présente là dans le débat qui est en train de naître depuis cet après-midi. On parle essentiellement du gouvernement des juges et on ne se pose pas la question de ce que c'est que la délinquance économique et financière jusqu'au plus haut sommet de l'État, quels sont les outils dont on doit collectivement se doter pour prévenir ce type de faits s'ils sont avérés, et comment on lutte pour assainir un petit peu notre démocratie, parce que c'est ça qui devrait être le cœur du débat, c'est comment fait-on pour lutter contre les atteintes à la probité quand elles atteignent ce niveau-là potentiellement.
Judith Allenberg, je vous remercie beaucoup. Vous êtes la présidente du syndicat de la magistrature. Ce qu'on peut ajouter, peut-être derrière Charlotte Piret, c'est que c'est le parquet national financier qui s'occupe de cette affaire. Le parquet national financier, il a 10 ans. Il a commencé avec l'affaire Cahuzac. On s'en souvient plutôt bien d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire aussi, est-ce qu'on a le sentiment, quand on couvre ces affaires-là, qu'on est arrivé à une espèce, j'allais dire une forme de maturité, qu'une ère a changé, en fait, y compris sur la justice pour les cols blancs, sur la délinquance en cols blancs, etc., qu'on est passé aussi à autre chose? Alors c'est difficile peut-être à encaisser pour les politiques de tous bords, mais est-ce qu'on est passé dans une autre ère?
Ce que ça dit en tout cas, c'est que le parquet national financier, ce sont des juges, parce qu'ils sont spécialisés, qui sont extrêmement connaisseurs de ce type de dossier et de ce type d'infraction, exactement comme on a eu la création du parquet national antiterroriste, parce qu'il y avait besoin de répondre à une menace grandissante. Maintenant, le choix de condamner Nicolas Sarkozy et les autres pour association de malfaiteurs, ce sont des juges du siège qui le décident, qui sont effectivement, la présidente est une grande connaisseuse aussi de ce type d'infraction et de dossier. On l'a vu présider le procès Fillon, par exemple. C'est pas le premier procès difficile, ou en tout cas gros fort enjeu qu'elle préside. C'est une juge du siège qui n'a pas d'agenda politique ni autre. Elle a, avec ses deux assesseurs d'ailleurs, décidé en fonction du droit et de sa conscience de magistrate.
On va retourner sur le volet politique, si je puis dire. Grâce à vous, Augustin, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu, Augustin.
Oui, alors je voulais vous partager une crainte que j'ai eue aujourd'hui à la découverte du procès, de la condamnation de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'en suivant un petit peu l'élan qui a été celui du procès de Marine Le Pen et les attaques de la droite et l'extrême droite contre l'État de droit, je me suis dit, est-ce que ceci ne va pas alimenter l'attaque contre la justice? Et dans mon esprit, l'attaque contre la justice, c'est l'attaque contre la démocratie.
Est-ce que c'est pour vous ça? Si on avait encore Judith Allenbach, elle y a répondu brièvement, Maxence Lambrecq. En tout cas, c'est sûr que le débat politique va se focaliser autour de ces questions-là, mais aussi autour de la personne, de toute façon, de Nicolas Sarkozy, qui était toujours quelqu'un d'important dans la vie politique en France.
Ah oui, ça a toujours été... l'ombre de Nicolas Sarkozy plane sur la vie politique française depuis son départ de l'Élysée de 2012. Ce que vous dites, Augustin, est très juste, et on l'a entendu avec le reportage de Timur Özturk à 19h, c'est-à-dire dans les rues de Neuilly, tout de suite, spontanément, évidemment que cette décision paraît difficile à comprendre, et évidemment que les juges sont tout de suite dans la bouche des habitants de Neuilly, les premiers responsables et les coupables.
Et en même temps, lui, il a cette phrase, hein, « La justice, c'est la haine ». C'est quand même une phrase extrêmement forte. Ça, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a prononcée en sortant du tribunal.
Bien sûr, et ça va continuer, et sans doute que d'autres relayeront ce message dans les jours qui viennent. Bien sûr que la justice et la démocratie sont liées. Bien sûr que le monde politique aussi sort abîmé de tout ça. Hein. Aller écouter un président, et puis se rendre compte 18 ans plus tard qu'il est condamné. Élu en 2007, condamné en 2025, le président qu'on va élire en 2027, peut-on lui faire confiance? Est-ce que dans 18 ans, on découvrira pas aussi une histoire? Donc bien sûr que le discrédit est jeté sur le monde politique qui sort affaibli encore une fois de cette condamnation à une prison ferme. Hein. C'était au Brésil, c'était au Pérou, c'était en Corée du Sud. On n'a jamais vu un président en Europe derrière les barreaux.
Jean-Philippe de Rosier, je vous ai entendu de loin réagir. Est-ce que c'est l'institution judiciaire, l'institution politique et la faute à chacun qui pâtiront tous les deux, en fait, de cette affaire?
Disons que la réaction qui consiste systématiquement lorsque l'on fait l'objet d'une condamnation et qu'on est un politique qui a accès à une certaine tribune de dénoncer les atteintes à l'état de droit, le gouvernement des juges, le malfonctionnement de la démocratie est particulièrement dangereux, voire mortifère, parce que ça élève le justiciable contre la justice. Or, le justiciable est protégé par la justice, parce que le justiciable, c'est nous tous. La justice est un contre-pouvoir qui vient montrer et confirmer aujourd'hui encore que ce contre-pouvoir est en mesure d'arrêter les excès, y compris de ceux qui font les lois, y compris de ceux qui pouvaient se sentir protégés d'une façon ou d'une autre, y compris donc de ces puissants qui, à un moment donné, se sont crus en mesure d'aller au-delà du droit. Et cette justice comme contre-pouvoir est indispensable. Je veux juste terminer sur ce point. On dénonce le gouvernement des juges, mais ceux qui le dénoncent, en réalité, ne se rendent pas compte qu'ils en appellent à un gouvernement sans juge, parce qu'ils condamnent l'action de la justice, et que le gouvernement sans juge, eh bien, c'est la porte ouverte à tous les excès, comme ceux qui ont été condamnés aujourd'hui.
Maxence Lambrecq.
Non, ce qui alimente ce débat, c'est le parallèle très facile avec des faits divers où certains sont relâchés. On a vu les policiers agressés à Tourcoing, Gérald Darmanin tout de suite qui condamne le fait qu'ils aient été relâchés, que certains agresseurs aient été relâchés quelques jours plus tard.
Laxiste,
et donc
qu'on entend beaucoup,
ce parallèle entre un ancien président qui ne menace plus grand monde, qui connaît tout le monde, qui est facile et comme il le disait, tout le monde connaît mon adresse, avec d'autres condamnations qui interrogent certains qui sortent de prison et qui commettent à nouveau des crimes. Et évidemment que ce parallèle-là, il est si facile à faire et il alimentera encore dans les mois qui viennent cette défiance à l'égard de toute institution avec un grand I, autant l'institution politique que judiciaire.
Jean-Philippe de Rosier, une question rapide et réponse rapide aussi de Tania, mais elle n'est pas toute seule à nous la poser. Un député, dit-elle, c'est vrai, a appelé à la clémence d'Emmanuel Macron, a appelé à sa grâce, alors pas tout de suite évidemment, mais à l'issue peut-être de l'appel. Est-ce que ça existe les grâces dans ce genre de circonstances?
Alors, le droit de grâce est effectivement une prérogative du président de la République, prévue par la Constitution, c'est l'article 17, il faut que la condamnation soit définitive. La grâce n'efface pas la culpabilité, elle agit sur la peine, et la grâce permet soit de commuer la peine, c'est-à-dire de la transformer en quelque chose d'autre, soit effectivement de la faire disparaître, mais la culpabilité, elle, demeure, et la personne condamnée reste coupable, mais par exemple peut ne pas aller en prison si c'est l'objet d'une grâce du président de la République. C'est généralement utilisé pas pour servir des intérêts politiques comme là ce serait le cas. C'est-à-dire que on gracierait Nicolas Sarkozy parce que c'est Nicolas Sarkozy. C'est généralement utilisé parce que, eh bien, dans un cas particulier, la justice a été aveugle et n'a pas forcément pris en compte une situation très particulière et a dû appliquer le droit de façon excessive. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on gracie la personne.
Maxence, et puis très vite, on retourne au standard.
Aujourd'hui, pas un mot de l'Élysée, évidemment, et pas un mot de l'Élysée non plus sur cette demande de grâce qui paraît complètement inenvisageable.
Mais est-ce qu'il y aura d'ailleurs, est-ce qu'on attend réellement, enfin, on n'attend pas évidemment une remarque de l'Élysée. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que Nicolas Sarkozy, quand même, a vu Emmanuel Macron à plusieurs reprises. Sébastien Lecornu a rencontré Nicolas Sarkozy exactement il y a très peu de temps. Donc voilà un homme qui était quand même extrêmement toujours au cœur de la politique française. Est-ce que, et malgré d'ailleurs sa mise en examen, malgré le procès qui avait eu lieu...
Ces deux anciennes condamnations,
malgré tout ça, est-ce que du coup vraiment ça le démonétise dans la politique? Ou est-ce que vous avez le sentiment que ce personnage a pris une telle place que même ça ne le démonétise plus dans la politique aujourd'hui, en tout cas, et son rôle de parrain un petit peu derrière les rideaux?
Bah c'est sûr qu'il va continuer sans doute de recevoir jusqu'à ce qu'il le puisse, évidemment, mais il a encore prévu des rendez-vous, là. En tout cas, c'était à l'ordre du jour encore la semaine dernière. Il calait des rendez-vous avec certains politiques dans les semaines à venir, avant le 13 octobre et ce rendez-vous au tribunal. Mais peut-être qu'il essaiera toujours, car il représente presque la campagne éclair et la campagne parfaite de 2007. Certains, encore aujourd'hui, comme Jordan Bardella, se disent que c'est la campagne à refaire et il va peut-être essayer de la faire un jour. Et Nicolas Sarkozy a toujours gardé des liens avec Emmanuel Macron, mais depuis plus d'un an, il n'y a à peu près rien qu'Emmanuel Macron écoute et suit. Donc voilà, et le fait qu'il ait perdu la Légion d'honneur, ça a été quand même une rupture entre les deux. La Légion d'honneur lui a été retirée cet été.
Charlotte, il y a Hugues qui nous attend terriblement. Allez-y, vous avez très peu de secondes.
Juste un tout petit mot pour dire qu'il va aussi devoir se focaliser sur son procès. C'est un appel qui arrive vite parce que du fait de condamnés qui sont désormais détenus, le délai est de 4 mois pour pouvoir l'organiser si ces personnes restent en prison jusque-là. Donc il va aussi devoir mettre le paquet, si je peux me permettre, sur sa stratégie de défense.
Hugues, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oh, je suis désolé Hugues, je vous ai fait patienter 22 minutes, je le vois, c'est écrit sur mon écran.
Il n'y a pas de problème.
Allez-y.
C'est très gentil, je veux réagir d'abord en étant... Ok, comme beaucoup d'auditeurs, sans doute, suite aux déclarations assez violentes à l'égard de la justice de M. Sarkozy, qu'il remet en cause, et c'est quelque chose d'inquiétant. Mais ma question porte sur deux aspects. Finalement, est-ce que la France, et personne ne l'évoque, a eu un président de la République entre 2007 et 2012 qui a réalisé une campagne, on peut l'imaginer, frauduleuse, avec des fonds d'abord qui ont dépassé les comptes de campagne, et avec des fonds qui sont susceptibles d'arriver d'un pays dictateur, avec M. Kadhafi? C'est ma première question. Donc la France aurait été présidée par ce président douteux. Et en même temps, j'entends pas parler dans les médias, chez vous comme ailleurs, du film qui est sorti et qui reprend la parole de M. Sarkozy, et j'ouvre les guillemets, personne n'y comprend rien. Ce film qui a été construit pendant 3 ans durant l'enquête par deux journalistes de Mediapart est très éloquent sur les collusions qui sont menées avec l'alibi M. Kadhafi et les proches de M. Sarkozy. On peut difficilement imaginer que M. Sarkozy n'était pas informé de ces pratiques. Enfin, je termine simplement en rappelant aux auditeurs que M. Sarkozy est un très grand ami de M. Balkany, qui lui a des pratiques particulièrement mafieuses.
Hugues, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, effectivement, le film de Mediapart, on en a tous entendu parler. L'idée, c'est qu'on ne va pas refaire l'ensemble de la procédure et du procès ici au téléphone sonne, mais Fabrice Arfi sera
invité de 8h20
demain à 8h20, donc vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Après, je voudrais remettre quelque chose droit dans ce qu'a dit Hugues, qui s'interroge sur, au fond, une présidence frauduleuse parce que financée de manière frauduleuse, et c'est bien ce que vous nous avez expliqué au début, le financement de la campagne n'a pas été établi, il ne figure pas dans ce jugement, les 5 ans n'ont rien à voir avec un financement illégal, il faut répéter ça.
Exactement, ce qu'a dit la justice, c'est le président que nous avons eu entre 2007 et 2012 s'est rendu coupable d'association de malfaiteurs. Donc on peut estimer qu'il est frauduleux à ce titre, mais pas du financement de sa campagne.
Question rapide. D'abord, vous vouliez dire quelque chose
sur le dépassement du plafond. On parlait de la campagne de 2012. Absolument. Avec l'affaire Big Malion, dans laquelle il a été condamné pour ce dépassement de plafond.
Sauf que là, on parle de la campagne de 2007.
Exactement. Voilà, c'était juste petite précision.
Très très rapidement, Charlotte, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement pourquoi ni Brice Hortefeux, ni Claude Guéant ne prennent une peine de 5 ans également, c'est-à-dire elles sont différentes. Est-ce que ça pourrait être... pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence? Est-ce qu'on sait dire ça?
Alors, Brice Hortefeux, il est condamné à 6 ans hein, de détention, donc c'est plus. Mais pardon, Claude Guéant, excusez-moi, Claude Guéant. Je vois dans votre regard que je me trompe. Mais Claude Guéant est donc condamné à 6 ans de détention, donc c'est plus. Mais du fait ses conditions de santé, il a 80 ans et effectivement il est dans des conditions très précaires, il échappe à une incarcération. Quant à Brice Hortefeux, son implication est un peu moindre et donc la justice, puisqu'on a parlé au début de cette émission de personnalisation de la peine, on est en plein dedans, est condamné à 2 ans de détention qui sont aménageables sous bracelet électronique qu'il va effectuer là, puisqu'il y a aussi exécution provisoire en ce qui le concerne.
Effectivement, autant pour moi, j'ai croisé mes skis. Je croyais que c'était l'un des intermédiaires, donc Jury, qui avait été condamné à combien ? 6 ans ?
Bah, juste, oui, je pense
subitement, j'ai un gros doute.
Et avec mandat de dépôt.
Avec mandat de dépôt, est parti immédiatement en détention, au même type que Wahib Nasser, qui sont partis encadrés par les policiers dès 13h.
Il nous reste une petite minute, Charlotte Piret. Donc, l'incarcération de Nicolas Sarkozy, on ne sait pas quand ça aura lieu. On sait qu'il a rendez-vous pour fixer une date. Cette date, la première date, c'est le 13. Et ensuite, on verra quelle sera la date.
Ensuite, probablement dans les prochaines semaines, parce qu'on parle d'une incarcération assez prochaine. Donc là, il va être incarcéré très vraisemblablement à la prison de la santé.
Et dans les conditions que l'on sait en général pour des personnages de cette hauteur-là.
Deux options, en gros, la possibilité d'être incarcéré au quartier des personnes vulnérables, mais aussi celle d'être placé à l'isolement. Ça va faire l'objet de concertation là, dans les prochaines semaines, y compris avec ses avocats. Nicolas Sarkozy peut lui-même le réclamer, on peut lui suggérer, parce que l'isolement permet d'être totalement coupé des autres détenus, ce qui ne sera pas le cas dans le quartier des personnes vulnérables.
Voilà, il me semble qu'on reviendra sur cette affaire et qu'on en reparlera.
C'est possible.
Ici même au téléphone sonne, il y a des chances. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, merci à tous pour vos nombreuses questions.